16h43, boulevard 102-1. Hey, au total tout, la campagne électorale achève déjà, puis il s'est pas passé grand-chose, hein, alors qu'on est en pleine période d'incertitude, d'insécurité, d'économie vacillante avec le monstre de Donald Trump qui est dans la tête d'à peu près tout le monde. Il me semble qu'on est rendu à la fin de la campagne. Il y a eu des débats qui n'ont pas changé grand-chose, puis au total tout, j'ai l'impression qu'on est pas mal au même point qu'on était au départ ou à peu près. On va parler de ça, on va parler d'actualité politique avec François Bourque qui est en studio avec nous. Salut François.
Salut, salut.
Tu nous as entendu sur la démocratie un peu plus tôt, puis tu voulais nous ajouter ton grain de sel?
Oui, mais en fait, ça rejoignait une réflexion que j'avais. Moi, à chaque campagne électorale qui arrive, peu importe le niveau, je retourne toujours à un petit bout de texte que moi je trouve absolument... inspirant,
okay.
C'est lumineux et tout ça. Et c'est, on est loin de la politique en apparence, mais je trouve que c'est une belle image pour parler de politique. Félix-Antoine Savard, vous connaissez cet auteur,
oui.
Un auteur québécois, ça, c'est l'Abatis, c'est un passage de l'Abatis. Le chapitre s'appelle « Les oies sauvages
okay. ». Les jeunes, François Bourque a un livre dans les mains, c'est là-dedans qu'on lisait à une certaine époque.
C'est en papier, il y a des impressions dessus, des mots.
Tu utilises un ton Bernard Drinville.
Oui, très condescendant.
Oh! Ouais, c'est ça. Donc, c'est un chapitre qui décrit la migration des oies à l'automne et au printemps.
Oui.
Et puis, j'ai envie de vous lire un paragraphe. Bon, il y a quelques mots là-dedans, mais qui sont plus longs, mais je trouve que c'est... Regarde, ça commence comme ça. C'est une démocratie. Il parle du vol des oies.
Oui.
Les voiliers d'oies qu'on voit ce temps-ci de l'année, justement. C'est une démocratie qu'il nous serait utile d'étudier pour le droit et ferme vouloir collectif, pour l'obéissance allègre à la discipline de l'alignement, pour cette vertu de loi capitaine qui... son gouvernement épuisé, cède à une autre, reprend tout simplement la file, sans autre préoccupation que sa propre eurythmie, sans autre récompense que le chant de ses ailes derrière d'autres ailes et la victoire de l'espace parcouru. Je trouve que c'est une belle image, une espèce d'image de la course à relais, une autre façon de voir la gouvernance où tu as une espèce d'échange. En fait, dans le monde des oies sauvages, ça fonctionne. En politique, bien, c'est pas toujours que l'oie capitaine s'aperçoit que son gouvernement est épuisé.
Il y en a qui tardent
à le voir, des fois. Alors, c'est pour ça qu'il y a des élections, des fois, pour dire à l'oie capitaine, ton gouvernement est épuisé. Peut-être que ce serait le moment de changer. Donc, c'est à ça que ça sert, l'élection.
Oh, j'aime l'image.
J'aurais aimé ça bien écrire, tabarnou.
Ah non, mais je trouve ça poétique. Mais à chaque campagne électorale, j'y reviens. Je trouve qu'il y a une image là-dedans de dire une espèce de principe d'alternance. Soit après un certain temps, il me semble que ça fait toujours du bien de s'aérer et de changer d'air.
Quand je restais à Saint-Fulgence, on était en pleine nature, puis moi, j'étais fasciné par les outardes puis les vols d'outardes. Puis des fois, je passais des après-midi dans le bois juste à regarder les voiliers partir.
Dès que tu les entends, tu lèves les yeux.
Puis une fois de temps en temps, quand tu es attentif, tu en vois une qui ne suit pas puis qui se met à tourner en rond. Ouais. Puis celle-là, c'est notre gouvernement. Juste celle-là.
Alors là, on va pouvoir mettre des noms sur les oies sauvages qu'on voit s'égarer ou suivre la parade. Mais je trouvais ça intéressant, la réflexion tout à l'heure. En te posant la question, est-ce que c'est un devoir d'aller voter?
Ouais, ben je suis toujours un peu confronté à ça parce que moi, publiquement, je l'ai dit, je vois ça un peu comme aller au Walmart. Tu sais, si je vais au Walmart puis je sors avec rien, c'est juste que j'ai rien trouvé.
Mais moi, j'ai envie de répondre par un autre cliché. Tu sais, c'est moins un devoir qu'une espèce de privilège d'avoir possibilité-là de s'exprimer, de choisir. Maintenant, pour qu'il y ait une vraie démocratie ou une vraie élection intéressante, il faut avoir un vrai choix. Si tu as l'impression que toutes les options qui sont proposées riment à rien ou changent rien, il n'y a pas beaucoup de motivation à aller voter. Donc, c'est ce qui explique bien souvent que les taux de participation ont eu tendance à décliner. Mm-hmm. Là où ils remontent, moi, les taux les plus importants que j'ai vus, c'est lors des référendums. 97 % ou quelque chose comme ça.
Alors qu'on sent appelé directement sur une question.
Sur une question, puis on sent que notre voix peut faire la différence. Ouais. Puis on sent que l'enjeu est important et fait une différence. Alors là, si on n'a pas le goût d'aller voter, si on n'a pas le goût de voter, c'est parce qu'on n'a rien trouvé dans l'offre qui nous rejoint, ou on pense que c'est tout blanc bonnet, bonnet blanc. Ou alors, moi, ce que j'aimerais des fois, c'est si on pouvait réformer les modes de scrutin, on parle de proportionnel des fois, mais si on pouvait faire des élections à la carte, ou dire, OK, je prends tel élément dans le programme de telle équipe, tel élément oui. dans le programme de telle autre, ça revient un petit peu à faire des référendums c'est à pas, répétition pour c'est... choisir. Mais si on pouvait faire du cherry picking comme ça dans
se les prononcer
programmes
sur
politiques,
certains éléments importants directement plutôt ouais. que choisir un parti, puis ça avait déjà été jasé. Aux États-Unis, il y a un mode de scrutin qui mm-hmm. fonctionne de cette manière-là, où tu vas avoir sur ton bulletin un tas de questions, puis on va demander aux gens de se prononcer par rapport à ça.
Tu n'es pas obligé de répondre à toutes, mais s'il y en a une qui t'interpelle puis que tu te sens appelé par celle-là, ben, tu as le luxe de dire oui. « je suis pour, je suis contre ».
Là, on est obligé de prendre un forfait tout inclus. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas de nuances, tu n'as pas rien. Tu ne peux pas dire à un parti « j'apprécie tels éléments de votre programme. Par contre, il y en a plein que je trouve que c'est du gros n'importe quoi. » On n'a pas ces nuances-là dans notre expression en votant. Puis je pense qu'on commence à trouver ça lourd comme société parce qu'on nous demande d'être commis, mais on nous demande aussi de faire une confiance aveugle sans totalement écouter tous les envers et tous les côtés. Là.
À cet égard-là, c'est peut-être au municipal que le système est le plus intéressant parce qu'on vote deux fois municipal pour ouais. le maire et pour un conseiller de quartier. Donc, déjà là, il y a une nuance qui est possible et il y a l'idée de choisir comme citoyen de donner un contrepoids à
je trouve ça important,
au maire ou à la mairesse. Il y a quelque chose d'intéressant puis qui incite peut-être à... J'allais dire qu'il incite plus à aller voter. Il faut faire attention parce qu'au municipal, c'est pas toujours là qu'il y a les taux de participation les plus élevés non plus. Donc, c'est pas une recette miracle sur la base de ce qu'on connaît.
François, si on revient à la campagne électorale fédérale, es-tu déçu?
On n'y était pas.
Il me semble... Bouclons la boucle. Es-tu déçu de cette campagne-là? Il me semble que c'est rien passé.
Bien, il s'est passé à la fois beaucoup de choses, puis rien du tout. Il s'est passé un revirement majeur avant que la campagne oui. commence à proprement parler. L'arrivée de Carney a complètement changé, bousculé oui. le paysage politique. On l'a abondamment décrit. Et depuis ce temps-là, bien, depuis l'arrivée de Carney, c'est comme si ça avait figé les
vrai.
Choses.
Oui.
Et il n'y a rien qui peut l'ébranler. On s'était posé la question, est-ce que les débats vont changer le cours des choses? Et c'est pas arrivé.
Non.
En fait, le débat a permis de voir qu'il y a beaucoup de similitudes, c'est vrai, entre les programmes des partis. Carney s'est rapproché, les libéraux sont rapprochés du programme conservateur. Une des grandes absences de cette campagne-là, sauf dans les tout derniers jours, c'est toute la question des enjeux financiers.
Mm-hmm. Qui se ressemblent beaucoup au bout du compte.
Ceux qui finissent par se ressembler, les cadres financiers, tu vas en débat des chefs sans cadre financier, sans avoir aucune idée du coût. Sans donner aux citoyens une idée générale du coût de ce qu'on veut faire.
Puis en même temps, je veux dire, c'est vraiment pas une garantie. Dans le monde où on vit en 2025, ça aurait presque été logique de dire, bien, nous autres, on présente pas de cadre financier parce qu'on sait vraiment pas où ce qu'on s'en va cette année. Là.
Mais effectivement, je pense que c'est probablement ça, c'est l'expression qui résume le mieux. Là, le cadre financier, on a essayé de l'éviter autant que possible pendant toute la campagne. On a retardé le moment, puis on l'a caché un samedi matin ou une autre journée. Bref, il y a des petites différences, mais c'est surtout qu'on ne croit pas
oui.
ces scénarios. C'est tellement gros aussi, ces programmes-là. Quand on parle jongle avec les milliards, on a de la misère. Même les spécialistes qui connaissent la chose financière bien mieux que nous sont pas capables de dire qu'est-ce qui est vraisemblable ou pas dans ces programmes-là. Ici, on a l'impression qu'on surestime les dépenses. Quand on gonfle les dépenses, l'autre surestime les revenus. En fait, pour le citoyen ordinaire, d'essayer de démêler tout ça, ça donne pas le goût. Ça facilite pas la chose si on a envie d'aller voter parce qu'on comprend pas mieux c'est quoi le véritable enjeu si on met notre X dans la case bleue ou dans la case rouge. Alors, c'est pas très rassurant. Mais c'est vrai que pour les partis politiques, dans le contexte actuel, ils ne sont pas capables de prévoir et nous non plus. Donc, hier, j'ai reçu une lettre de mon conseiller financier, du conseiller financier. Enfin, c'est pas une lettre personnelle, c'est une lettre circulaire à tous les clients. Et puis, écoute, il y a une espèce d'aveu. Tu sais, écoute, on sait plus.
Ouais.
On sait plus quoi faire. On sait plus quoi vous dire. Il n'y a plus rien. C'est le chaos total dans les marchés boursiers. On n'est plus capable de rien prévoir. Puis, c'est drôle parce que pour la deuxième fois dans la même chronique, je vais parler de poésie. Parce que c'est mon conseiller.
Cette fameuse chronique de poète.
Du poète disparu, oui. C'est ça.
Elle nous manquait, on est content que tu recommences.
Non, mais c'est ça, mais c'est drôle parce que la lettre du conseiller financier te cite, c'est lui qui cite le poème de Rudyard Kipling, « If ». tu sais, qui a été traduit en français par « Tu seras un homme, mon fils oui. ». Il y a une belle chanson de Lavilliers qui reprend ce texte-là. Mais en gros, c'est ça. Si tu peux garder toute votre tête quand les autres la perdront, etc. Donc, alors, ayez confiance en vous, même si on ne sait pas. Soyez patiente. C'est un petit peu ce que plaide le poème de Kipling. Mais c'est drôle d'entendre ça de la bouche du conseiller financier de qui on s'attend normalement à ce qu'il y a...
La rigueur ou de savoir où il s'en va.
Qui en sache plus que moi, finalement, alors qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le cas.
Quand un conseiller financier est rendu à citer des poètes, c'est qu'il est fourré en tabarnouche sur ce qui va se passer dans les prochaines années.
C'est comme pour les avocats, comme dit ma blonde des fois. Elle dit quand les avocats ne savent plus quoi dire, ils parlent latin. Ils sortent l'expression.
Le Québec a été décoté, puis ça ne semble pas déranger grand monde, François.
C'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps que ça arrive que le Québec vit une décote. Là.
Ah oui, puis c'est pas... C'est pas juste une anecdote. Il y a des coûts financiers importants à ça. Puis c'est sûr, ce qui est l'anecdote, c'est de voir que ça arrive le même jour où le gouvernement de la CAQ, t'apprends que t'es décoté puis t'annonces que tu réinvestis dans un projet dont on peut douter qu'il va se réaliser un jour, le projet de troisième lien. Le même jour, t'annonces que tu vas redépenser 42 milliards pour ça. Et le même jour, François Legault s'en va au Canadien de Montréal puis tu le vois jubilant à la télévision alors que... c'est sûr, c'est juste le hasard, pas voulu, c'est pas mal pour un premier ministre d'aller assister à un match de hockey, mais disons que l'image, ça faisait drôle. Tu sais, c'est quand ta province se fait décoter, puis tu t'en vas au hockey, ce qui rappelle une autre des décisions de ton gouvernement sur l'aide aux Kings. Bref, ça brassait toutes sortes de rapprochements que je voyais dans ma tête, puis qui n'étaient pas à l'avantage du gouvernement de la CAQ ce jour-là.
Je suis le premier à dire, écoute, un premier ministre, une fois de temps en temps, a le droit de décrocher, il a le droit de lire un livre la fin de semaine, il a le droit d'aller voir une game du Canadien, mais au niveau de la perception, puis moi, personnellement, j'en voulais à RDS parce qu'ils l'ont montré 40 fois pendant la game.
Ça a gâché ton plaisir.
Une fois, ça aurait été amplement suffisant, mais c'est vrai que quand on dit que la politique, c'est la perception, c'était vraiment la mauvaise journée.
C'est peut-être injuste, mais disons que c'est un hasard qui faisait pas bien les choses pour l'image de François Legault. La question qui nous reste, c'est quels vont être les autres impacts? Est-ce qu'il va y avoir un effet domino sur les villes, par exemple? Mm-hmm. Parce que la Ville de Québec emprunte aussi beaucoup. À première vue, la Ville de Québec, ses finances sont en ordre, dans le sens où elle... d'abord, c'est la cote de la Ville est différente de celle du gouvernement. Et la Ville, bien, elle ne fait pas de déficit. Hein, c'est interdit par la loi. Sa dette diminue. Donc, il y a quelques bons arguments pour plaider que la cote de Québec devrait rester la même, donc le poids de la dette dans le budget de la ville devrait pas bouger, mais on n'a pas le contrôle là-dessus.
Parlant de pas bouger, François, la mobilité à Québec est en train de devenir l'immobilité à Québec. C'est le sujet que tout le monde veut éviter. Peut-être pour les mêmes raisons que le cadre financier au fédéral. C'est-à-dire que là, dans le contexte actuel, on coupe tout, on ne sait pas où on s'en va. Puis je trouve pas ça normal que les maires soient obligés de courir après la ministre pour avoir l'heure juste puis essayer d'avoir des réponses à des questions qui se sont accumulées. Mmh.
Ouais, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes.
Ben oui.
Mais on voit que cet enjeu-là, on s'en amuse puis on finit par être lassé d'en parler. Mais c'est rendu un sujet qui a fait le débat des chefs au fédéral quand même. Ça veut dire que c'est un enjeu local qui devient un enjeu... pan-canadien ou presque, un enjeu provincial, évidemment, à l'Assemblée nationale, on questionne le gouvernement, pas juste sur le troisième lien, pas juste sur le tramway, mais sur l'ensemble de son œuvre en matière de plan de transport. Puis c'est vrai que c'est pas normal d'être obligé de mendier une rencontre avec la ministre des Transports. Hey. On pourrait dire que c'est juste marchand, mais là, le maire de Lévis a été obligé de faire la même demande aussi. Tout le monde est un peu dans le néant. On comprend que c'est pas facile, la situation financière du Québec. Oui, il faut peut-être réfléchir
mais à ce moment-là,
à
peut-être que
dépenser,
si le gouvernement avait fait preuve de transparence plutôt que de tout apprendre par la bande, qu'il y avait eu des rencontres, qu'il y avait eu de l'information, là, on a l'impression que c'est des cachotteries ou encore un grand manque de planification ou de considération envers les villes.
Il y a probablement un peu de tout ça. Moi, en fait, le mot que j'aurais envie de choisir ici, c'est cohérence. Si on avait l'impression que depuis le début, il y avait un plan cohérent, tu sais où tu veux aller, tu dis, voici, on s'est entendu là-dessus. Peut-être qu'en cours de route, là, à cause du contexte économique, des fois, tu vas être obligé de dire bien, on va y aller un petit peu moins vite que ce qu'on voulait. On ne pourra pas faire toutes les phases 2, 3 en même temps. On va étaler nos investissements, mais au moins, on continue d'aller dans la même direction. Mais c'est ça qui a manqué dans le dossier de transport avec le gouvernement de la CAQ et pour le troisième lien et pour le tramway et tout ça. Donc, c'est la confusion. On dit qu'on s'occupe de voies réservées sur les autoroutes. On ne veut plus les faire. Est-ce qu'on les ramène? On demande à la Caisse de dépôt d'agir. Bref, il n'y a pas de plan ou de cohérence dans tout ça. Puis je pense que c'est ça qui fait le plus mal.
Restons dans le domaine de la cohérence, puis ça va être notre dernier sujet de conversation. Comment tu trouves ça, toi, qu'un gouvernement qui exige qu'on cache les croix et les signes religieux au nom de la laïcité à grandeur de la province, aille se pavaner aux funérailles du pape au Vatican?
Hey, c'est une autre belle contradiction.
Aïe aïe!
Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Par le passé aussi, moi je me souviens, j'étais dans mon travail de journaliste sur le terrain, je suis allé deux fois à Rome pour couvrir des événements religieux. L'élection du pape François, j'y étais ce jour-là. Et,
T'étais dans le conclave?
Ben, pas dans le conclave, mais juste à côté. J'étais dans la place. Mais puis l'année suivante, c'était le cardinal Cyprien Lacroix qui a été nommé. Et puis bon, les médias de Québec s'étaient rendus pour couvrir ça. Mais on était à ce moment-là en plein débat sur la loi de la laïcité de Bernard Drinville. Donc, on plaidait pour la laïcité. Puis en même temps, il y avait les policiers étaient tous là. Municipaux, provinciaux pour assister à l'événement. Donc, on n'en est pas à une contradiction près avec la chose de l'Église.
Je trouve ça surréaliste. C'est comme si on faisait une exception pour la religion catholique, alors que si on décide qu'on est laïque, ben faut être laïque puis faut être conséquent. Ça veut dire, il est beau le voyage en Italie, là, mais tu vas pas aux funérailles du pape si on est laïque, tu restes chez vous, là.
Parce que c'est ça l'argument qu'on utilise souvent pour dire on va s'occuper, par exemple, des églises. Ben, le patrimoine religieux, ben, là, il y a un patrimoine bâti, il y a des lieux physiques, des symboles
ça fait partie de l'histoire,
dans les quartiers. C'est des lieux de rassemblement qui veulent dire quelque chose. Tu t'occupes de ça. Moi, je trouve pas ça incompatible avec l'idée de la laïcité de l'État, là, de dire on va s'occuper des bâtiments. Mais quand on arrive dans le cas d'une cérémonie religieuse, moi aussi, je trouve que
avec comme justification que la majorité des Québécois sont catholiques. Puis tu sais, il y en a qui nous ont écrit, oui, mais c'est un chef d'État, le pape. Attention, là, on a le chef d'État large.
Cela dit, la lutte, en tout cas, ou la campagne électorale qui s'amorce au Vatican va être aussi intéressante.
Ça joue dur dans un conclave. Hein?
Bien, on n'est pas là pour en témoigner. Et puis souvent, les résultats nous surprennent parce qu'il n'y a pas de sondage non plus. Contrairement à nos élections, on est capable de voir venir.
On voit juste la fumée.
Oui, on voit juste la boucane. Puis, on présume qu'il y a un feu en dessous, mais on voit juste la boucane. Mais c'est ça, la dernière fois, lorsque le pape qui vient de décéder a été élu, il n'était pas dans la shortlist des noms qui avaient circulé. Il y avait le gars de Québec, Marc Ouellet, l'ancien,
c'est vrai.
Qui était considéré comme étant parmi les favoris. Mais le pape qui a été nommé n'était pas là. Par contre, on a appris il y a quelques jours, à partir d'écrits de journalistes qui sont spécialisés là-dedans, qu'il avait par contre été un des favoris lors de l'élection précédente. Son nom était disparu de la map, là, il est revenu. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce pape-là était certainement incarné un peu la gauche. Ou une
c'est
église
le pape progressiste,
un petit peu plus progressiste ou ouvert, plus libéral au sens large, par opposition à d'autres qui incarnent plus l'espèce de droite religieuse plus intégriste et tout ça. Donc, on retrouve à l'échelle du Vatican un peu le même genre de débat d'idées ou de vision du monde qu'en politique.
Sauf que tout ça se fait à porte close, ce qui fait en sorte qu'on présume beaucoup, puis il y en a beaucoup qui nous ont rapporté à l'excellent film Conclave, qui est sorti sur plateformes, Prime Video dans les dernières semaines, qui est un film fascinant et inquiétant parce que, qu'on soit laïque ou pas, l'Église catholique emmène très large dans plusieurs pays.
Il y a des agendas.
Oui, puis si on est laïque, puis nous autres, ils ne nous ont pas demandé rien avant de nous baptiser là, à l'âge de 2 mois. Là. Mais dans d'autres pays, je veux dire, c'est eux autres encore qui prennent les décisions, comme ça s'est déjà fait au Québec, d'ailleurs.
Oui, la séparation de l'Église et de l'État revient au cœur de tout ça, d'ailleurs. J.D. Vance, le VP américain, était chez le pape la veille du décès ou l'avant-veille du décès. Là, ça se demandait s'il ne l'a pas empoisonné, mais il l'a trouvé.
Ah, là, la théorie du complot, hein, il l'a achevé.
Mais là, et puis là, Trump qui annonce qu'il va être aux funérailles du pape, il est soutenu par une droite religieuse plutôt intégriste, donc par une certaine vision de ce qu'est la religion catholique. Donc,
il y a un lobby pour avoir un pape américain, parce que ça, c'est l'autre affaire. Il y a des lobbies à l'intérieur de tout ça.
Mais là, Donald Trump ne peut pas tout faire en même temps, là.
Est-ce que Elon Musk peut être pape?
Oh, mon Dieu. Trump pape.
Non, mais imagine l'incidence que tout ça peut avoir sur certaines populations. Puis là, je parle de l'Amérique du Nord, mais c'est plus vaste que ça, la politique qu'il y a derrière un conclave.
Oui, puis la politique, puis la vision aussi, la vision de la société, de la place des hommes et des femmes en société, on la retrouve à travers ça aussi. T'sais, en Amérique du Sud, on sait que c'est politiquement, c'est un univers qui est plus conservateur, plus une vision de la, d'un rôle de la femme plus traditionnel. En Afrique aussi, et puis c'est des églises qui pèsent plus lourd maintenant dans un conclave, plus lourd qu'avant. Donc, de penser que parce qu'il y a eu un pape qui était plus, en guillemets, plus libéral et qui l'a nommé lui-même, une bonne partie des cardinaux qui vont voter dans quelques semaines, de penser qu'automatiquement, il y a une espèce de courant d'ouverture dans l'Église, c'est pas vrai. Puis comme c'était pas vrai en politique, à un moment donné, on avait cru, après la chute du mur de Berlin,
qu'on
tout
était
ça,
ailleurs,
qu'on était, que la démocratie avançait tranquillement et tout ça, et on s'aperçoit, non, c'est pas le cas, il y a des ressacs, puis des mouvements de recul, puis dans l'Église, ça peut être ça aussi, même si ça nous intéresse pas parce qu'on veut la laïcité, plus de laïcité, mais bon.
Hey, si on révise, littérature classique, poésie, politique, religion, tu nous as fait faire un beau tour d'autobus, François.
Ah oui, on était censé être là pour parler de politique et d'un peu d'économie.
On a fait ça en dresse. François Bourque, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Il est 17h03, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour, on vient.
Gravel dans le retour.